Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministère de l'économie créative prépare un programme de travail supérieur en quatre groupes. Le Japon lance Lunar Glass Neo et crée un écosystème vivant sur la Lune. L'agence géologique recommande d'interdire l'escalade de Marapi à Noël et au Nouvel An. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le ministère de l'économie créative prépare des programmes de travail supérieur dans quatre groupes en 2025. Le ministre de l'économie créative, M. Tengku Rifki Harsha, a déclaré la semaine dernière que le ministère de l'économie créative se concentrait sur le développement de l'économie créative à travers des programmes supérieurs, tels que l'amélioration de la réglementation, la synchronisation interministère et la collaboration avec les acteurs industriels. Le ministre de l'économie créative s'engage également à utiliser les données comme base de politique avec le soutien d'institutions telles que l'Agence centrale de la statistique et l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation dans la formulation des politiques économiques créatives. En outre, le ministre prépare également des programmes pour soutenir la réforme bureaucratique, le renforcement des capacités et le renforcement de l'identité du ministère de l'économie créative. Le ministère de l'économie créative donne également la priorité à la création d'emplois et à l'augmentation des capacités des acteurs de l'économie créative en mettant l'accent sur tous les aspects du sous-secteur de l'économie créative, depuis la création, la production, la promotion, la distribution et la consommation. L'Université japonaise de Tokyo et Kajima Corporation dimanche ont déclaré avoir lancé un projet commun appelé Lunar Glass Neo qui vise à construire un écosystème autonome avec une gravité artificielle pour soutenir la vie humaine sur la Lune. Une étude conjointe de l'Université de Kyoto et de Kajima Corporation intitulée Habitat à gravité artificielle sur la Lune et sur Mars, annoncée en 2022. Cette recherche se concentrera sur plusieurs étapes, y compris l'évaluation de la faisabilité technique des structures et des installations, l'adéquation à la vie humaine, l'impact sur la santé et la création d'un écosystème ferme destiné à être utilisé dans la construction d'installations résidentielles sur la Lune. La déclaration des deux institutions indique également que l'un des objectifs de leur étude était de commencer à construire un objet similaire sur Terre. Lunar Glass est conçu pour avoir un diamètre d'environ 200 mètres et une hauteur de 400 mètres et pouvoir accueillir jusqu'à 10 000 personnes. L'agent géologique du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales recommande d'interdire l'ascension du mont Marapi, situé dans la résidence Agam et la résidence Tanah Datar à Sumatra occidentale, pendant les vacances de Noël 2024 et de Nouvel An 2025. Ahmad Rifandi, le responsable de l'observation du volcan du mont Marapi à Padang, dimanche a déclaré qu'actuellement le volcan se trouvait à 2891 mètres au-dessous du niveau de la mer, à un niveau 2 ou un statut d'alerte. Cela signifie, en référence aux recommandations du Centre de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques, qui interdit aux résidents, visiteurs ou touristes d'entrer et exercer des activités dans un rayon de 3 km du centre d'activité volcanique, à savoir le cratère de Verbeek. L'Agence de conservation des ressources naturelles à Sumatra occidentale continue d'intensifier la surveillance des alpinistes illégaux du mont Marapi, du mont Tandikek, du mont Sago et du mont Singgalang avant les vacances de Noël. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère de la Culture a organisé une formation de sensibilisation à la défense nationale dans le village culturel sundanais Paseban, Bogor, du 20 au 22 décembre pour commémorer la Journée de la Défense nationale. Les activités impliquant des employés du ministère de la Culture de toute l'Indonésie visent à renforcer l'engagement envers le nationalisme et la conscience nationale à travers une approche culturelle. Dans une déclaration écrite du ministère de la Culture lundi, il a été déclaré que divers événements étaient axés sur le renforcement des valeurs nationales. L'augmentation des sentiments d'amour pour le pays et le renforcement des liens entre les employés du ministère de la Culture. Cette activité a été supervisée par le lieutenant-colonel des marines Muji Wilestanto et son équipe en tant que compagnon de formateur pendant la défense nationale en cours. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Erlangga Hartarto, estime que divers programmes de réduction sur les achats à la fin de 2024 pourraient économiser des déficits sur les dépenses de l'État jusqu'à 80 billions de roupies, soit environ 5 milliards de dollars américains. Divers programmes ont été lancés à la fin de l'année, comme le programme de la Journée nationale de shopping en ligne, du 10 au 16 décembre 2024 et le programme d'achat en Indonésie qui se poursuit jusqu'au 29 décembre 2024 et chaque achat est une vente bon marché 2024 du 20 au 31 décembre 2024. Sur la base des données Nielsen, les dépenses de consommation en biens de consommation rapide et en technologie au troisième trimestre 2024 ont augmenté par rapport à la période précédente et ont atteint 256 billions de roupies. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Thank you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « L'esprit de Noël et la volonté d'arrêter la propagation de la haine dans le monde ». Le gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz s'est engagé dimanche à enquêter pour savoir si les services de sécurité auraient pu empêcher une attaque à la voiture bélier sur un marché de Noël de la ville de Magdeburg, qui a tué 5 personnes et a blessé plus de 200. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, et les chefs des services de l'enseignement national et étranger seront interrogés par deux commissions parlementaires le 30 décembre, après que les partis d'opposition ont exigé des réponses rapides. La ville de Magdeburg pleure le massacre de vendredi soir lorsqu'un SUV a percuté la voiture lors d'un marché de Noël. L'AFP a rapporté que l'incident avait tué 4 femmes et un enfant de 9 ans et blessé 205 personnes. La ville de Magdeburg, qui se prépare actuellement pour Noël, est en deuil à cause des actes de Taleb al-Abdul Mohsen, l'homme de 50 ans originaire de l'Arabie Saoudite, a écrasé son SUV au milieu d'un marché animé. Le marché auparavant joyeux s'est soudain rempli de tristesse et de panique. L'église Johannis, située en face du marché, est devenue le centre de rassemblement des personnes pleurant cet incident sanglant. L'église est également un lieu où les gens rendent hommage aux victimes. On pense que les sombres événements de Magdeburg ont été provoqués par la haine de Taleb al-Abdul Mohsen envers la politique migratoire allemande. L'homme a été identifié comme étant un médecin résident en Allemagne depuis 2007. Il a quitté l'islam et qu'il est historiquement anti-islam. Sa haine a finalement fait des victimes dans la société qui ne connaissaient même pas et ne comprenaient pas le point de vue de Taleb al-Abdul Mohsen. De temps en temps, la haine a toujours un mauvais impact. Actuellement, les inquiétudes concernant les impacts négatifs de la haine se renforcent avec la technologie de communication de plus en plus sophistiquée. Les gens propagent facilement la haine via leur discours dans le monde entier juste par but du doigt. Le discours de haine est souvent l'une des méthodes les plus fréquemment utilisées pour diffuser une rhétorique et une idéologie qui divisent à l'échelle mondiale. Si rien n'est fait, le discours de haine peut même mettre en danger la paix et le développement parce qu'il déclenche des conflits, des tensions et des violations des droits humains à grande échelle. La célébration de Noël est une célébration de paix et de joie. L'esprit de la célébration de Noël ne doit pas être altéré par les comportements haineux qui se propagent délibérément et causant des morts. Les célébrations de Noël devraient être utilisées pour accroître la sensibilisation au danger du discours de haine et inviter les gens du monde entier à prévenir et à mettre fin à la haine sous toutes ses formes. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 23 décembre 1973, un avion de ligne affrété s'écrase au Maroc. Un avion Sobel Air Caravelle transportant des passagers s'est écrasé dans la région du Maroc du 23 décembre 1973. Lors de cet incident, 106 personnes ont été déclarées mortes. L'épave de l'avion bimoteur Caravelle de fabrication française gisait à des centaines de mètres de haut sur un sommet de montagne 2400 pieds. Sobel Air est la plus ancienne compagnie charter belge. Le 23 décembre 1979, l'armée soviétique occupe la capitale de l'Afghanistan. Les troupes soviétiques ont envahi l'Afghanistan et occupé la capitale afghane, Kaboul, le 23 décembre 1979. Avant le 23 décembre, les forces militaires soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Cette agression militaire a été menée dans le cadre du soutien de l'Union soviétique au Parti démocratique du peuple afghan. La guerre entre l'Union soviétique et l'Afghanistan a éclaté le 23 décembre 1979. La guerre s'est produite parce que l'Union soviétique voulait vaincre les forces moudjahidines afghanes qui voulaient renverser le gouvernement marxiste-léniniste en Afghanistan. Le 23 décembre 2002, l'équipe nationale indonésienne a battu les Philippines. Le 23 décembre 2002, l'équipe nationale indonésienne s'est imposée 13-1 contre les Philippines en Coupe AFF. À cette époque, le championnat s'appelait encore la Tiger Cup. Les finales de la Coupe AFF 2002 se sont déroulées dans deux pays, l'Indonésie et Singapour, du 15 au 29 décembre. Dans le tour préliminaire de groupe, l'Indonésie était dans le groupe A. L'équipe Garuda a concouru avec le Vietnam, le Myanmar, le Cambodge et les Philippines. L'Indonésie contre les Philippines a été le dernier match du tour préliminaire du groupe A. Le match a eu lieu au stade principal Gelora Bung Karno, Jakarta, le 23 décembre 2002. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Jalan, kau kembali datang.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulé « L'Indonésie déclare que la requête en fatwa de la Cour internationale concernant les obligations d'Israël constitue un moyen de tester le droit mondial ». L'Indonésie considère la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies demandant une fatwa à la Cour internationale concernant l'obligation légale d'Israël de garantir une aide humanitaire au peuple palestinien comme un effort pour tester l'engagement du monde envers le droit international. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a déclaré qu'en tant que l'un des pays qui ont rédigé la résolution adoptée le 19 décembre, l'Indonésie considère également la ratification de la résolution comme une étape vers la responsabilité et un effort pour faire respecter le droit international et le système multilatéral. Citant kemlur.go.id samedi 21 décembre, Armanata Nasir a déclaré que la demande d'une fatwa légale était un test pour l'engagement envers le principe de la Charte des Nations Unies et du droit international. Selon lui, pour l'Indonésie, ces principes constituent le fondement du système multilatéral construit par l'ONU. Il a ajouté que si les pays fondateurs de l'ONU ne s'engagent plus envers les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, le monde perdra confiance et espoir dans un système multilatéral juste. La résolution initiée par l'Indonésie, la Norvège, la Palestine et des autres pays a été soutenue par 137 pays a reçu le co-sponsor de 53 pays. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a déclaré que cette résolution était la réponse mondiale au blocus imposé par Israël sur l'aide humanitaire à Gaza depuis le début de l'agression israélienne contre la région le 7 octobre 2023. Les efforts visant à garantir une assistance au peuple palestinien sont de plus en plus urgents étant donné que les institutions mondiales, notamment l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, sont confrontés à de sérieux défis pour fournir une aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, qui sont confrontés à des destructions majeures dues aux attaques israéliennes. Le Parlement israélien a interdit les activités de UNRWA en adoptant une loi interdisant l'agence en octobre 2024. Ainsi, la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée « Demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice concernant les obligations d'Israël en relation avec la présence et les activités des Nations unies » d'autres organisations internationales et des pays tiers. Il s'agit également d'un effort visant à continuer d'encourager le monde à aider le peuple palestinien à exercer ses droits, notamment celui de déterminer son propre destin. Le large soutien à cette résolution montre également que le soutien à la lutte du peuple palestinien est une question qui préoccupe la communauté mondiale. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Sejurtak, Loksado est un sous-district de la région de Hulu Sungai Selatan dans la province de Kalimantan du Sud. Il se trouve à environ 185 km de Banjarmasin, la capitale provinciale du Kalimantan du Sud. Loksado est situé dans les montagnes Mekatus et est l'une des zones touristiques naturelles avec des attractions culturelles du peuple Dayak Bukit, la tribu indigène des montagnes Mekatus. Pour le tourisme de nature lui-même, à Loksado, il y a 8 belles cascades, à savoir cascade Riam Barajang, cascade Riam Anai, cascade Rampah Menjangan, cascade Kilat Api, cascade Rampah Lambin, cascade Benyat Anggang, Kaskat Rampa Jelatang et Kaskat Tinggiran Ayam. Mais cette fois, nous vous présentons l'une des 8 cascades qui est la principale destination de Loksado, à savoir la cascade Aratai. Ces résultats, pour vous rendre à la cascade Arataï qui est assez éloignée, vous pouvez utiliser des véhicules privés ou le transport en commun. Pour ceux qui utilisent le transport en commun, choisissez simplement le transport vers Kandangan, la capitale du district de Hulu Sungai Selatan, ensuite de Kandangan à Loksado, peut être pris en environ une heure. Après votre arrivée à Loksado, le voyage continue jusqu'au village Arataï, situé à environ 20 km. De Loksado au site d'attraction touristique de la cascade Arataï, seuls les véhicules à deux roues peuvent passer. Le terrain parcouru est également assez extrême. La route de 9 km présente une pente d'environ 60 degrés. La route mesure à certains endroits moins de 1,5 m de large avec un ravin ou une rivière sur un côté. Pour ceux d'entre vous qui n'apportent pas de véhicule, vous pouvez louer une moto ou utiliser un service de taxi-moto. L'emplacement de stationnement des véhicules est à environ 100 mètres de la cascade. Depuis le parking de la cascade Arataï, vous devez marcher et traverser un pont suspendu pour atteindre le guichet d'entrée. Vous devez payer un billet d'entrée pour attraction touristique de la cascade de 5 000 rupiah par personne. En arrivant à l'endroit où se trouve la cascade, vous serez certainement émerveillé par sa beauté. La cascade Arataï a une hauteur d'environ 20 mètres et comporte 3 niveaux. Le débit d'eau est assez important. Il est donc très difficile de nager autour de la cascade, surtout quand il pleut. Pendant la saison sèche, le débit d'eau n'est pas trop important. Sous la cascade, il y a un lac qui peut être utilisé pour se baigner ou simplement pour se tremper. Pour la baignade, les organisateurs de voyage fournissent des pneus aux visiteurs. Pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas se baigner dans les eaux claires de la cascade Arataï, vous pouvez prendre des photos avec la cascade en arrière-plan. Le site touristique de la cascade Arataï est ouvert tous les jours de 7h à 17h heure locale. Sur ce site touristique, il y a un belvédère pour se reposer tout en profitant de l'atmosphère. Il y a aussi un endroit pour se changer. Pour ceux d'entre vous qui veulent passer la nuit, il existe de nombreuses auberges autour de Loksado. Ces auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « La cascade Arataï à Kalimantan du Sud ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Oh,
cukup jangan banyak bicara.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Sungai Martapura. Sungai Martapura signifie rivière Martapura. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Di Pasar Terapung Lok Bintan. Je répète, Di Pasar Terapung Lok Bintan signifie au marché flottant de Lok Bintan. Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Di pasar terapung Lok Bintan. Di pasar terapung Lok Bintan signifie au marché flottant de Lok Bintan. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Pasar terapung Lok Bintan. Pasar terapung Lok Bintan signifie marché flottant de Lok Bintan. Sungai Martapura. Sungai Martapura signifie rivière Martapura. Paling dekat. Paling dekat signifie le plus proche. Pasar terapung Lok Bintan di Sungai Martapura paling dekat dengan hotel ini. Pasar terapung Lok Bintan di Sungai Martapura paling dekat dengan hotel ini. Signifie le marché flottant de Lok Bintan sur la rivière Martapura est le plus proche de cet hôtel. Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin signifie ville de Banjarmasin. Beberapa. Beberapa signifie certains. Au cours de la conversation, vous entendez la phrase Pasar terapung Lok Bintan di Sungai Martapura paling dekat dengan hotel ini. Je répète. Pasar terapung Lok Bintan di Sungai Martapura paling dekat dengan hotel ini. Signifie le marché flottant de Lok Bintan sur la rivière Martapura est le plus proche de cet hôtel. Dans cette phrase, il y a l'expression Sungai Martapura. Sungai Martapura signifie rivière Martapura. Le mot sungai, sungai signifie rivière. Dans cette expression, signifie le grand débit d'eau. Le mot sungai, Sungai signifie rivière est utilisé comme élément du nom propre d'un objet géographique sous la forme d'un grand débit d'eau comme la rivière Martapura. Un autre exemple, allez écouter un autre exemple d'utilisation de vocabulaire lié aux objets géographiques. La haute. La haute signifie la mer. Lokasi mercusuar berada di pinggir laut. Je répète. Lokasi mercusuar berada di pinggir laut. Signifie l'emplacement du phare est en bord de mer. Pulau. Pulau signifie île. Pulau itu bernama Kalimantan. Pulau itu bernama Kalimantan. Signifie l'île s'appelle Kalimantan. Dans la province du Kalimantan du Sud, il existe un marché traditionnel où les activités d'achat et de vente se déroulent sur des bateaux flottant sur la rivière. Le marché flottant de Lok Baintan est l'un des marchés flottants les plus populaires du Kalimantan du Sud. Le marché est situé sur la rivière Martapura, au village de Lok Baintan, au district de Sungai Tabuk, la région de Banjar. Le marché, qui fonctionne environ 4 heures chaque matin, est une attraction touristique. Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Hey boys, coba dengar aku. Ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku. Terkadang manis sekali, terkadang penuh dengan emosi. Bila datang waktunya, terkadang penuh misteri.
Begitu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Masih ingat beranikan diri menyapa percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat tapi kau malah ketiduran dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah, upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Dan sebuah hari yang biasa saja jadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah, upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Musique.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.